Chapitre 2. Lundi 10 avril, 11h20. Trois jours avant son excursion en bateau à la Ville Blanche et le lendemain du jour où il avait quitté ses amis à Washington, James se trouvait devant le caveau familial au cimetière de Cambridge. Sa dernière visite ici remontait à un peu plus de 10 ans. À l'époque, il était rentré en Amérique en toute hâte afin d'être au chevet de son père mourant pour apprendre, à peine débarqué dans le port de Boston, que Henry James Sr. était mort une heure plus tôt. Le jour de l'an 1882, James avait gravi seul la colline enneigée jusqu'à la tombe paternelle que l'on avait remplie de terre gelée 10 jours plus tôt. William, qui n'avait pas pu rentrer d'Europe à temps, avait envoyé une lettre très intime à leur père, arrivée elle aussi après le décès. C'était une journée très froide, même si le ciel hivernal du Massachusetts était dégagé, et James se rappelait les nuages fantomatiques de son haleine qui montait dans l'air et ses orteils qui s'engourdissaient pendant qu'il lisait la longue missive. Elle commençait par « Cher vieux père » et contenait plusieurs pages de considérations métaphysiques, dans lesquelles James vit la poursuite des discussions, parfois houleuses, que William et leur père entretenaient depuis des décennies. Elle se terminait par « Bonsoir, mon très cher vieux père. Si je ne vous revois pas, adieu. Un bienheureux adieu. » James était sûr de n'avoir pas pleuré ce jour-là 10 ans plus tôt, sans quoi les larmes auraient gelé sur ses joues. Cette journée d'avril ne ressemblait pas du tout à la précédente. En hiver, il avait pu distinguer la blancheur d'un champ au loin, par-delà la rivière Charles. Cette vue était à présent bouchée par des arbres, mais à travers les feuilles agitées par la brise chaude, il aperçut des maisons et des magasins qui n'existaient pas en 1882. Un an plus tôt, quand William était en Italie, il avait fait graver une urne de marbre pour accueillir les cendres de sa sœur Alice. Henry lut les mots choisis par William. « Ed essa da martiro, ed da esilio, bene a questa pace. » James reconnut aussitôt le passage, tiré du 10e livre du Paradis de la Divine Comédie. « C'est du martyr et de l'exil qu'elle est venue à cette paix. » La citation semblait appropriée à l'existence d'Alice, largement passée alitée et remplie de souffrance. Elle avait en effet envisagé la mort comme une échappatoire pendant les dernières années de sa vie, même si James savait, mieux que quiconque dans la famille, que la douleur et l'attente de la mort avaient été égayées presque jusqu'à la fin par le sens de l'humour malicieux d'Alice et son penchant pour la parodie. Quand William avait fait imprimer le journal intime de leur sœur, uniquement pour les membres de la famille et sans demander l'aval de Henry, ce dernier avait été stupéfait par les noms cités et tourné en ridicule. Il aurait largement expurgé le journal pour en retirer les insultes aux vivants et à quelques morts récents, mais son frère aîné avait peut-être raison. Peut-être était-il impossible d'expurger Alice. Dans une main, James tenait l'élégante tabatière contenant la petite quantité des cendres de sa sœur qu'il avait subtilisée après la crémation en Angleterre, tandis que dans l'autre, il avait une petite truelle de jardin qu'il avait achetée dans une droguerie non loin de leur ancienne maison de Bolton Street. Il avait cependant respecté son serment de ne pas aller voir la maison, maintenant que la famille l'avait désertée, ni de passer devant l'imposante demeure de William et de son épouse Alice, au 85 Irving Street, ici à Cambridge. James avait le sentiment de ne pas avoir rendu justice à sa sœur. Son plan était très respectable. Il avait voulu que l'un des frères, en l'occurrence lui, et pas seulement Mademoiselle Catherine Loring, répande les cendres d'Alice et ce dans un lieu où elle avait été heureuse. Sauf qu'il n'avait pas réussi à trouver un tel endroit, du moins un tel endroit qui ne soit pas lié au mariage de Boston de sa sœur à Mademoiselle Loring, ce qui excluait donc les deux maisons de Newport. James se rendait bien compte que cette jalousie tardive à l'encontre de Catherine Loring était idiote et égoïste. D'autant qu'il n'avait jamais éprouvé de tels sentiments du vivant d'Alice, se réjouissant seulement que quelqu'un ait réussi à faire apparaître un sourire sur son visage ou à lui arracher un rire. Mais depuis la mort de sa sœur, et après que Mademoiselle Loring eut remporté ses cendres dans ce lieu sacré, le caveau des James, sa jalousie et son obstination à trouver le bon endroit pour les cendres subtilisées n'avaient fait que croître. Il avait pourtant fini par renoncer. Sa sœur Alice James avait été unique, et ses cendres devaient toutes être ensemble, ou du moins pas trop loin. James n'avait pas l'intention d'essayer d'ouvrir l'urne de marbre. S'assurant que personne ne l'observait, il s'agenouilla et creusa une petite tombe pour la tabatière. L'objet en ivoire lui avait été offert à la fin des années 1870 par Richard Monckton Milnes, Lord Houghton, un ami de son père. Un homme énergique et amusant, avait dit Henry James Senior à son jeune fils, le plus bel esprit de Londres et un faiseur d'hommes, de beaucoup d'hommes. Mais le Lord avait déjà 68 ou 69 ans quand Henry avait fini par faire la connaissance du mécène qui avait l'habitude d'organiser des petits déjeuners et des dîners sophistiqués pour capturer des artistes et écrivains célèbres comme s'il s'agissait de papillons. La tabatière d'ivoire, dont James n'avait pas l'utilité, hormis en tant qu'œuvre d'art, était sculptée de délicates petites silhouettes androgynes. Avec leurs tuniques ondoyantes, on aurait dit des saints ou des chérubins tout droit sortis d'un tableau du XVIIe siècle. Ce petit objet possédait un caractère spirituel, encore renforcé à présent qu'il contenait les cendres de sa sœur bien-aimée. Alors qu'après avoir posé la tabatière dans le petit trou profond, James commençait à le combler de terre, il se remémora un dîner avec Lord Houghton. Parmi les dîneurs figuraient Tennyson, Gladstone et le docteur Heinrich Schliemann, l'homme qui avait découvert et mis au jour la cité de Troie. Ayant achevé son propre travail d'excavation et de comblement, Henry se releva, sentant un soudain élancement dans son dos toujours douloureux, et épousta son pantalon. Il se rendit compte qu'il devrait dire une petite prière, mais il n'y en avait aucune dans son cœur ou son esprit à cet instant. Il avait déjà fait ses adieux à Alice. C'était le seul membre de la famille dont il avait accompagné la longue et difficile agonie. Il jeta un dernier coup d'œil à l'urne en guise de cérémonie. Ed essa da martiro, ed da esilio vene a questa pace. Dans le cab qui l'attendait à l'entrée du cimetière, James se dit qu'il allait devoir décider que faire. Il n'y avait qu'une seule ligne de conduite raisonnable. Son train pour New York quitterait la vieille gare de Boston une heure plus tard. Le soir même, il embarquerait sur le Spree avec tous ses bagages. Il prendrait un excellent dîner et profiterait d'une bonne nuit de sommeil dans sa cabine de première classe avant que l'élégant paquebot ne lève l'ancre le lendemain, direction Southampton, puis Londres par le train, et enfin il serait chez lui. Mais il y avait la question du fichu télégramme de Holmes lui ordonnant de le retrouver à Beacon Hill cet après-midi-là, bien après le départ du train, comme s'il était un pion dépourvu de libre arbitre que le détective pouvait déplacer à sa guise. Plus important encore, James devait mettre Holmes au courant de l'étonnante réunion de truands et d'anarchistes en présence du professeur Moriarty, à laquelle il avait assisté au péril de sa vie. Ce n'était pas le genre de choses qu'on racontait dans une lettre, à supposer qu'il sache où trouver le détective, encore moins dans un télégramme. Il allait devoir se décider très vite. Le cocher du cab montrait des signes d'impatience, tout comme son cheval. En toute logique, il n'y avait qu'un choix possible. James devait se sortir de ce cauchemar. Il devait se rendre à la gare, monter dans ce train pour New York, se faire conduire avec ses bagages jusqu'au paquebot et s'installer dans sa cabine de luxe sur le Spree. La raison lui criait qu'il était temps de rentrer chez lui, dans son appartement de Devere Gardens, et de se remettre au travail sur la pièce qui allait lui rapporter une fortune. « Cocher !» appela-t-il. « À la gare centrale, et en vitesse !»